Nous avons chanté, notre Père, que ta parole est puissance. Nous te prions, Seigneur, que tu sois donc puissamment à l'œuvre par ton esprit, parce que nous nous confions en toi, parce que nous voyons que laisser à nous-mêmes nos propres paroles ne sont pas puissantes pour transformer l'être humain, le cœur humain, mais nous comprenons que toi, tu es à la hauteur de cette tâche et nous te disons avec joie, avec reconnaissance que nous sommes à toi et nous te prions donc, Seigneur, d'œuvrer en nous et cela pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, ce matin, me semble-t-il, si vous avez en tête ce que nous avons lu, nous sommes confrontés à un choix pour chacun d'entre nous parce que le texte de ce matin présente deux miracles de la part de Jésus qui sont tous les deux remarquables, ces miracles. La multiplication des pains et Jésus qui marche sur l'eau, et pas seulement lui en fait, mais son disciple Pierre aussi, dans ce texte, marche aussi sur l'eau. Et il y a deux moyens de réagir par rapport à ce que nous venons de lire. D'abord, avec un peu d'embarras, un peu de gêne. Oh, mince! Devrait-on vraiment tomber sur un tel texte aujourd'hui? En plus, aujourd'hui, c'est le jour où j'ai amené un membre de la famille, un ami, un conjoint, une belle-mère, un collègue. Et eux, ils disaient qu'il allait m'accompagner, et c'était chouette. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On tombe sur un texte que d'office, ils vont rejeter comme étant un peu farfelu, non? N'est-ce pas possible pour nous de nous concentrer sur ce qui est moins controversé? La compassion de Jésus, son amour, ses critiques par rapport aux hypocrites, le soin pour les démunis, et ainsi de suite. Alors ça, c'est un moyen de réagir. Est-ce le vôtre lorsque nous avons lu ce texte? Deuxième moyen, c'est d'accepter que le miraculeux fait partie intégrale de la foi chrétienne, que c'est indispensable d'ailleurs, car après tout, l'Église de Jésus-Christ tire son existence de la résurrection de Jésus-Christ, physique, historique. Si nous nous réunissons aujourd'hui, le dimanche, le premier jour de la semaine, c'est parce que c'est le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Nous comprenons dans cette façon de penser que si nous supprimons le miraculeux de la foi chrétienne, du récit biblique, il ne reste pas grand-chose à cette foi. Car la foi chrétienne tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Et ses actes témoignent de sa personne. Supprimer le côté miraculeux, c'est supprimer le cœur même de notre foi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui règne aujourd'hui, qui a toute autorité, qui est Dieu, Dieu le Fils. Ce que nous disons dans notre profession, confession de foi, nous disons ceci, je crois en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Alors, vous penchez de quelle manière vous? Plutôt gêné dans l'embarras, plutôt reconnaissant que nous avons un Dieu qui est intervenu dans notre monde. Alors, bien sûr, j'aimerais vous aider à être convaincu de cette deuxième façon de réagir. Mais sans qu'entendre, toutefois, dans une version du christianisme qui confond la révélation divine de la personne de Jésus comme étant une promesse pour nous tous aujourd'hui, de voir de tels miracles de manière à ce que, à tout moment, nous pouvons nous attendre aussi à marcher sur l'eau. Non, non. Ces miracles mettent en relief la nature tout à fait exceptionnelle de ce que Jésus est venu faire sur terre. Le récit biblique, l'ensemble de la Bible, n'est pas un récit qui contient rien que le surnaturel. Non, loin de là, il y a des grands morceaux du récit biblique où nous racontons ce que nous appellerons des événements tout à fait normaux. Mais lorsque l'exceptionnel apparaît, il apparaît car c'est effectivement exceptionnel, vous comprenez cela? On les mettait sur papier pour cette raison, justement. On les lit encore aujourd'hui pour cette raison-là. Et c'est surtout le cas, cela, pour Jésus. Les témoins de l'époque, les témoins oculaires, ont témoigné que ces événements avaient lieu. Les ennemis de Jésus, de l'époque, ne cherchaient pas à nier que les événements ont eu lieu, mais cherchaient plutôt à attribuer la puissance derrière ces événements à d'autres sources que Dieu lui-même. Les témoins, les disciples, ils n'étaient pas des naïfs, comme parfois nous avons tendance à croire, baignés, si vous voulez, dans une compréhension du monde pré-scientifique. Non, les disciples de Jésus font preuve d'un regard bien réaliste de la vie, si nous lisons les récits de la vie de Jésus, les évangiles. Certains sont même cyniques face à des miracles. Ils connaissent ce que c'est la sueur d'une journée du travail dans leur métier de la pêche pour la plupart d'entre eux. Ils savaient ce que c'est le blabla des prétendants messianiques. Mais Jésus-Christ entre en scène et lui, il les convainc de sa personne. C'est le point culminant de ce texte. J'espère que vous avez observé ça lorsque nous l'avons lu. Verset 33. « Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. » On peut légitimement se demander ce qu'ils comprenaient, eux, à ce moment-là, par ce terme « Fils de Dieu ». Car c'est certain qu'ils n'avaient pas encore, avant la résurrection de Christ, une compréhension complète de ce que cela signifiait. Mais au moins, ils reconnaissaient en Jésus qu'il était l'envoyé, ou envoyé par Dieu, le Messie qui devait venir. Et s'il vient de Dieu, ben cela va de soi qu'il viendra avec l'autorité et la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un présupposé contre l'existence de Dieu qui exclut la possibilité que si Dieu entrait dans le monde qu'il a créé lui-même, il ne pourra pas faire des signes qui témoignent de sa puissance. Alors vous voyez, si le présupposé n'est pas là, si nous permettons que si Dieu entrait réellement dans notre monde, il est capable de faire de telles choses, alors ce n'est pas un grand saut de foi de dire « oui, je crois que cela a eu lieu ». Et donc c'est sans embarras ce matin que nous vous présentons Jésus tel qu'il est présenté dans ses récits. Il faut se décider, voyez-vous, est-ce que je cherche un Jésus conforme aux critères du monde moderne? Ou est-ce que je cherche un Jésus tel que la Bible nous le présente? Dès que tu commences à vouloir supprimer les parties surnaturelles de la Bible, alors qu'est-ce qui te reste? Une foi qui rejette par gêne les vérités transcendantes de notre foi. Il reste une foi qui, oui, offre dans un sens, nous pouvons le dire, un avenir que l'homme peut déterminer par lui-même, parce que tout d'un coup, s'il n'y a pas de transcendance, l'homme est libéré des contraintes externes au-dessus de lui. Et donc, il est libre, oui, d'inventer ou de réinventer ce qu'il veut être. Il est libre de réaliser ses propres rêves selon ses ressentis à lui, sans aucune autorité au-dessus. Mais en faisant cela, nous rejetons toute possibilité d'un cadre extérieur à nous qui permet de l'aide lorsque nous passons par une crise d'identité, par exemple. Car si le vrai toi, ce n'est que toi qui peux le dire. Alors, lorsque vous avez des difficultés par rapport à ce toi que tu as défini, qui peut t'aider? C'est toi qui définis cela, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dans cette façon de penser, l'homme laissé à lui-même, comment va-t-il dans ses recherches de bonheur, d'identité même? C'est frappant, c'est en Occident, là où nous avons réduit toute vision de la transcendance à la poubelle, où nous avons les taux de suicide les plus élevés du monde, où nous avons les plus grands taux de ceux qui sont dépendants des médicaments de tout genre. Pire encore, personne dans ce cas de figure ne peut te sauver. Car sur le plan rationnel, tu n'es qu'un organisme comme un autre. Tu es sans destin. Tu es simplement des atomes aléatoires qui sont là un jour pour un moment. Oui, ici-bas, tu es maître de ton propre destin. Mais tu n'as pas de destin en dehors de cette courte vie-ci. Point. C'est la réalité si nous rejetons toute vision de la transcendance. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas, en tant qu'êtres humains créés, pour porter le poids de construire notre propre réalité, bien qu'on le dise aujourd'hui à toute reprise. Non, nous ne sommes pas créés pour déterminer qui nous sommes. Nous appartenons à un monde créé par un créateur. Et si nous nous trouvons dans une église ce matin, c'est que depuis 2000 ans, l'église chrétienne prêche un message de salut qui se trouve en Jésus-Christ, la révélation parfaite de ce Créateur. Donc j'aimerais vous exhorter à accueillir à 100% une vision de la foi chrétienne transcendante. Car se tourner vers la version soft, la version foi chrétienne light, Jésus sans ses miracles, Jésus qui accepte la vision du monde, de notre identité, que nous proclame par exemple le mouvement LGBTI+, Jésus peut-être une piste religieuse comme une autre, mais aucune de ces pistes sait vraiment ce que c'est la divinité. Alors c'est de poursuivre une piste qui laisse le monde définir la religion comme un phénomène humain et pas une révélation divine. C'est le monde donc qui transforme la foi chrétienne pour refléter ses priorités à lui, mais qui a pour effet de rendre la foi impuissante pour sauver l'homme de son péché, de nous offrir la joie d'une connaissance qui va au-delà de cette vie. Alors oui, c'est important, chers amis, au départ, lorsque nous retombons sur ces miracles de Jésus-Christ, d'affirmer que ces miracles ont eu lieu, historiquement parlant, pas selon la communauté de la foi, une manière de dire, vous avez votre vérité si vous le voulez, mais la vérité, c'est ici. Non. La foi chrétienne n'est pas contente d'être réduite dans une case humaine. Nous disons, Dieu est intervenu dans notre histoire, votre histoire, que vous le veuillez ou pas. Et nous allons donc creuser ensemble ce que ça signifie. Parce que s'il a fait cela, des miracles ont but d'attirer notre regard où? Vers le miracle même? Où on doit reproduire ça? Imaginez, ce serait gay. Non, rien à voir. Vers Jésus, sa personne. Ce sont donc des signes de qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu ?» Parce que ces signes de Jésus, effectivement, pointent de doigt Jésus, qui est le Fils. Alors, on va voir ça en trois volets. Aucun de ces volets, c'est trop long, je l'espère. Sinon, Samuel, il se met debout pour me faire taire. Donc, premier point. Jésus fait ce que seul Dieu fait. Jésus fait ce que seul Dieu fait. Creuser ce texte, c'est de voir les parallèles avec l'œuvre de Dieu lors de l'Exode. Nous avons lu Exode tantôt ensemble. Là où Dieu appelait un peuple à lui, racheté de l'esclavage en Égypte, dans le livre d'Exode, ils sont en route vers la terre promise. Et ce peuple est sauvé par de grands miracles. Où se trouvait-il ce peuple? Dans le désert. Où se trouve verset 13 Jésus et cette foule? Dans le désert. Ici, dans notre texte, verset 19, il y a une provision à manger à partir de 5 pains et 2 poissons pour une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, probablement à peu près 15 000 en tout. Et de là, 5 pains, 2 poissons, Dieu a pourvu, Jésus a pourvu pour l'ensemble de la foule, tout comme Dieu a pourvu la manne dans le désert pour Israël. Plus tard, lorsque les disciples sont sur le lac de Galilée, pendant la nuit, la barque battue par les vagues, au verset 24, Jésus qui a l'autorité sur les eaux, la tempête qui se calme dès que lui et Pierre se retrouvent dans la barque. Et cela fait écho de ce que Dieu a fait lorsque le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge en pleine nuit aussi. Il faisait nuit ici dans ce récit. Verset 27 de notre texte. Jésus rassure les disciples en s'approchant d'eux sur l'eau. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. » Alors avec tous ces différents détails que nous venons déjà d'évoquer le long de ces deux récits, ce n'est guère étonnant que nous voyons ici plus qu'un simple « C'est moi les gars !» Non, c'est « moi » évoque de façon assez directe le nom de Dieu, le nom que Dieu s'est désigné pour lui-même à Moïse dans le livre d'Exode, Yahweh. « Je suis qui je suis. » Il évoque ce nom-là. Oui, à ce stade, c'est toujours un peu énigmatique, mais ça fait partie du dévoilement progressif de l'identité de Jésus. Ce sont des signes que nous comprenions donc, ces signes. Cette semaine, j'ai écouté un peu par hasard la chanson de la chanteuse française Louane, intitulé « Si t'étais là ». Je trouvais que c'est un beau chant, je sais, je ne suis jamais trop à jour, c'est sorti il y a à peu près 3 ans, je pense, même peut-être un peu plus. Mais bon, voilà, c'est bien de rattraper quand on peut. Je cite. « Parfois, je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson qui fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? » Bien sûr, c'est l'histoire de quelqu'un qui a perdu un proche et qui imagine, si tu étais là, qu'est-ce que tu dirais? Mais lorsque j'ai écouté ça, ça me paraissait souvent également le sentiment que nous pouvons avoir par rapport à la foi, par rapport à Dieu. Est-ce que tu m'entends vraiment? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me vois? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? L'être humain, vous savez, ayant supprimé Dieu, cherche souvent, en dehors de Dieu, ce qui est transcendant. Car nous sommes créés par le Dieu créateur transcendant. Mais au lieu de chercher dans le bon endroit, nous cherchons souvent en tout et en n'importe quoi. Dans ce cas de figure, des petits trucs deviennent des signes. Un truc un peu bizarre a lieu peut-être dans votre vie, genre, vous savez, un jour j'ai raté mon train et quelqu'un à ce moment-là que je ne connaissais pas, qui est apparu mine de rien, m'a demandé si j'étais perdu. Et je prenais ça comme un signe que oui, je suis perdu. Et on cherche de tels signes. Je suis toujours en train de dire, Mais pourquoi vous cherchez là, les amis? On a de meilleurs signes que ça, vous savez. Loane, de nouveau, que Chantal. Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Ça, c'est triste, n'est-ce pas? Parce que, surtout si on utilise ça pour la religion, pour la foi chrétienne, c'est ça ce qu'on fait, des conversations imaginaires, comme si pour combler un peu ma tristesse du moment, nous devons inventer de telles personnes des conversations imaginaires. Mais sachez ceci, chers amis, Dieu ne joue pas à cache-cache. Il est venu, il est proche de nous. Et en Jésus-Christ, nous lisons encore aujourd'hui ce récit parce qu'il nous a envoyé des signes visibles, tangibles, qui nous poussent à poser la question. Jésus-Christ, qui es-tu? Premier point alors, Jésus fait ce que Dieu seul fait. Deuxième point, Jésus pourvoit pour son peuple. S'il fait ce que Dieu a fait, le premier signe souligne aussi à quel point Jésus pourvoit pour son peuple, tout comme Dieu a pourvu pour son peuple lors de l'Exode. Dieu l'a fait en donnant de la manne en Exode. Mais ici, comme Samuel l'a déjà souligné, il ne s'agit pas de ce qui est physique. Si vous voulez être convaincu de cela, vous pouvez voir la discussion que Jésus a avec ses disciples deux chapitres plus tard, chapitre 16, où Jésus leur pose la question « Êtes-vous encore sans intelligence ?» Il le dit, chapitre 16, verset 9. « Ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés ?» Et il leur pose la question parce qu'il dit « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain ?» que je vous ai parlé. Là, il s'agissait du pain réel. Mais il dit cela pour indiquer quelque chose qui n'a rien à voir avec du pain. Vous ne comprenez pas ça, les disciples, il leur demande. Il parle, voyez-vous, donc d'une réalité plus fondamentale que le manger et le boire. Il pourvoit pour son peuple, plus qu'ils le comprennent d'ailleurs. Et j'aimerais à ce stade citer une autre prophétie, Ésaïe, chapitre 25. Alors, ce texte parle d'un banquet messianique. Ésaïe 25, verset 6. Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples, là sur cette montagne, un festin de vin vieux, des mets succulents, des mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux et dûment clarifié. Déjà, quelques chapitres plus tôt, en Matthieu, chapitre 8, verset 11, Jésus a fait écho à ce grand banquet ouvert à tous. Verset 11 du chapitre 8, où je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et ce banquet dont Jésus parlait, que Jésus évoque ici de nouveau, dont Ésaïe avait aussi évoqué pour nous, ce banquet durera. Verset 7 de Ésaïe 25 parle de Dieu qui déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais. Et de tous les visages, le Seigneur, l'Éternel, effacera les larmes et sur toute la terre. Ce banquet évoque un avenir d'un monde meilleur, l'avenir glorieux du royaume des cieux, là où il n'y aura plus de mort, plus de tristesse, plus de larmes. Ce miracle, donc-ci, est un indice d'un salut encore plus définitif, plus merveilleux, qu'effectue uniquement Dieu lui-même pour son peuple. Dieu en Jésus nous donne signe que ce banquet devient possible grâce à l'arrivée du royaume des cieux, grâce à l'arrivée du roi de ce royaume, ce fils de Dieu. Et il faut comprendre que dans cet évangile de Matthieu, c'est Jésus qui est au cœur de l'action de Dieu. Lisez l'évangile de Matthieu et on voit que Jésus se révèle tout au long de cet évangile comme celui qui est le point culminant de la révélation de Dieu. Il est celui qui ne vient pas pour abolir la loi et les prophètes, chapitre 5, 17, mais pour les accomplir, pour les amener à leur accomplissement. En lui, mais quelle prétention s'il n'est pas réellement le Fils de Dieu. En lui, l'homme sage, selon Jésus, au chapitre 7, c'est celui qui construit sa maison sur les paroles de Jésus et qui les met en pratique. Mais quelle prétention, si ce n'est pas le cas. C'est Jésus qui appelle les 12 disciples à le suivre au chapitre 10, qui les envoie en mission pour proclamer que le royaume des cieux est proche, parce que lui, il est là. Mais quelle prétention, si ce n'est pas le cas. C'est ce qu'il répète, nous avons vu la semaine dernière, au chapitre 11 à Jean-Baptiste. Renier Jésus, il le dit plus tard, c'est de renier son Père qui est dans les cieux. Notre positionnement, même encore ce matin, chers amis, par rapport à Jésus-Christ, détermine notre avenir. Le peuple de Dieu se compose autour de Jésus-Christ. Dieu avait appelé son peuple Israël en Exode, Exode chapitre 4, verset 21. Comment ? Il avait appelé Israël son fils. Mais le fils par excellence, le fils obéissant qui honore Dieu comme Israël n'a pas pu faire, qui révèle Dieu au monde comme Israël n'a pas pu faire non plus. C'est qui ce fils? C'est Jésus. Jésus rassemble le peuple de Dieu, définitif qu'il soit juif ou païen d'arrière-plan, autour de lui. Et ce signe que nous venons de lire souligne qu'il pourvoit pour son peuple. Jusqu'à quel point pourvoit-il? À un point qu'il y a 12 paniers de morceaux qui restent. 3 chapitres plus tôt, les 12 disciples avaient été envoyés en mission. 12 disciples qui reflètent assurément les 12 tribus d'Israël, de l'ancien peuple de Dieu. Et maintenant, quelle est la provision de Jésus-Christ pour les disciples, pour ceux qui suivent Jésus? Qu'il y a assez à manger pour que son peuple, rien que dans les restes, les 12 paniers de ce banquet messianique. C'est à ce point-là qu'il pourvoit à nos besoins en tant que peuple de Dieu. C'est merveilleux d'avoir Jésus-Christ comme notre roi, chers amis. C'est grand ce qu'il fait, c'est généreux. Ça vient de lui. La scène que nous allons célébrer d'ici peu nous rappelle de cette générosité de sa part, cette joie de savoir que grâce à sa mort pour nous, des pécheurs, où il a pris sur lui la condamnation que nous avons méritée, grâce à sa résurrection par laquelle il nous offre la vie qui dure pour toujours. Alors nous mangerons un jour avec lui lors de ce banquet céleste. Que disait Jésus ? Lorsqu'il parlait de la scène, jusqu'au jour, vous devez manger et boire, jusqu'au jour où nous en boirons dans le royaume de mon Père. N'est-ce pas magnifique que nous mangeons, nous boirons, nous buvons ensemble à la lumière de cette réalité. Il pourvoit pour nous. Alors, est-ce que c'est trop bon pour être vrai, tout cela? Mettons-nous, si nous pensons que c'est le cas, que c'est vraiment le cas, qu'il y aura ce banquet éternel auquel nous pouvons participer, mais mettons-nous dans ce cas-là, dans les souliers des disciples, lors de la multiplication des pains. Vous pensez qu'eux, ils s'attendaient à ce que de deux pains et deux poissons, ils allaient pouvoir faire à manger pour 15 000 personnes? Oh! Non, jamais de la vie. C'était inattendu à tous égards. C'était quasi irresponsable. Dans un sens, ils n'étaient pas capables de faire ce miracle, de dire ce qu'il a dit. 15 000 personnes. Mais c'est vrai. Il a pourvu pour 15 000 personnes. Jésus est le Fils de Dieu. Et tout dépend alors de ce que nous nous croyons par rapport à lui. Et ça, ça nous amène à notre troisième et dernier point. Il nous appelle, il appelle son peuple à placer sa confiance en lui. Ce n'est pas étonnant que le récit se termine avec un appel à la foi. Vous avez remarqué cela. Verset 28, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Et Pierre, il commence bien. Il sort de la barque et il marche sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais verset 30, « Voyant que le vent était fort, il eut peur, comme il commençait à s'enfoncer. » Et il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre a douté. Et dans un sens, j'espère que nous pouvons avoir un peu d'empathie par rapport à ses doutes. Il était après tout en train de marcher sur l'eau. J'imagine que c'était l'unique et seule fois de sa vie où cela lui arrivait. Mais cela est difficile à tout moment de marcher sur l'eau, bien sûr. Et pourtant, au début, il le faisait. Comment? Car Jésus l'avait rempli de confiance. C'est ça ce qui le pousse à demander au verset 28. Puisque c'est toi, c'est comme si c'est ça ce qu'il dit. Ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Mais ensuite, son regard se tourne non pas vers la source de sa foi, à ce moment-là, Jésus, mais à des obstacles apparents à sa foi. Le vent, l'eau, bien entendu. Gravité. Jésus souligne cela lorsqu'il dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et en ce faisant, Pierre représente tout croyant qui vacille dans sa foi. Pas dans le sens où nous sommes appelés à reproduire les mêmes miracles aujourd'hui. Est-ce que je dois aller faire ce soir, je remplis mon bain et je dois faire un essai, je veux marcher sur l'eau. Non. Nulle part est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, souverain, est-ce qu'il nous dit dans sa parole que nous devons nous attendre à ce genre de miracle aujourd'hui pour nous, le croyant. Non, mais dans le sens que lorsque nous tournons notre regard de la source de notre confiance, Jésus, mort pour nos péchés, ressuscité pour nous rendre à la vie, le Fils parfait en qui nous pouvons également être adoptés par la foi dans la famille de Dieu, être héritiers du royaume des cieux, alors ce qui est devant nous, dans l'immédiat, qu'il soit une objection intellectuelle, peut-être que nous avons, une opposition virulente de la part de quelqu'un par rapport à ma foi, une circonstance pénible qui me met au défi. Tout d'un coup, ces choses-là paraissent insurmontables. Mais Pierre aussi, merci Seigneur, c'est également comme un exemple positif. Car que fait-il lorsque il commence à s'enfoncer? Il crie, « Seigneur, sauve-moi !» Jésus lui tend la main et le tire de l'eau. Oui, échouer fait preuve de peu de foi, d'être trop emballé par ce qui nous préoccupe. Cela est un portrait juste de tout homme ici présent, toute femme. Mais lorsque nous nous rendons compte de notre manque de foi, notre abandon de Dieu, de ses promesses, notre cœur dominé par d'autres soucis dans la vie, alors la solution, ce n'est pas « Steve, tu dois mieux faire, tu sais ». Non, la solution, c'est de nous confier à celui qui nous sauve. Et il nous tend la main. C'est bien ce qui a eu lieu une fois que Moïse avait guidé le peuple d'Israël au travers de la mer Rouge. À la fin de cet épisode, Exode 14, verset 31 que nous lisons nous, Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple eut de la crainte envers l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Alors nous sommes appelés à faire confiance à Jésus-Christ si nous appartenons à lui ce matin. À tout moment, comprendre que ce Fils, il prépare pour nous cet avenir. Il pourvoit pour nous. Il nous sauve. Et nous comprenons cela encore mieux que les disciples l'avaient compris, parce que nous vivons après l'époque de la mort, de la résurrection, de l'ascension de Jésus-Christ. Nous avons chanté, n'est-ce pas, le deuxième chant, « Je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole est mon appui, je m'attends à toi fermement, à toi, car toi seul me rassasis. » Et nous allons chanter dans un instant, lorsque nous partageons la scène, je pense, le dernier chant où nous disons « Suite à ce que nous avons vu, ces signes qui témoignent de sa grandeur, de sa puissance, nous chantons « Seigneur, en retour, reçois mon amour. » Nous sommes appelés à lui faire confiance. Mais nous sommes appelés aussi à faire cela si jusque-là, et peut-être il y a de telles personnes présentes parmi nous, nous avons, disons-le honnêtement, ignoré. Nous n'avons pas jusque-là plié le genou, appelé à Jésus-Christ, sauve-moi. Que chantait Loan? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Oui, ici, chers amis, le fait d'être ici présent, vous avez entendu clairement deux signes qui pointent de droit Jésus-Christ, en qui vous pouvez trouver le salut. Au lieu de nous condamner lorsque nous rendions compte de notre petitesse devant lui, de notre incapacité face à notre propre péché, notre doute. Au lieu de juste dire, vous avez fait votre choix. Que fait-il? Il nous tend la main et il nous sauve. De tels signes, il les a envoyés, on continue à en parler pour que de tels signes continuent à provoquer en nous la foi. Nous sommes invités à laisser de côté notre peu de foi, notre doute, et donc de crier avec Pierre, Seigneur, sauve-moi. Pleinement persuadé que Jésus, il est capable de faire cela, car il est vraiment le Fils de Dieu. Je vous invite à prier, chers amis. Quelle joie de pouvoir confesser Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme étant notre Sauveur. Et nous t'implorons, Seigneur, que tu sois à l'œuvre pour que nous puissions marcher dans la confiance en toi, que tu nous aides à ne pas être ceux qui sont préoccupés par les défis dans l'immédiat de notre vie, mais ceux qui sont persuadés que Jésus est à la hauteur de tout défi. Et nous te prions, Seigneur, que si c'est la première fois pour certains d'entre nous, nous puissions nous tourner vers toi. Crier aussi avec Pierre, Seigneur, sauve-moi. Te prions que, oui, tu nous tends la main, comme tu le promets, de toute personne qui se tourne vers toi, qui puisse découvrir en toi la puissance et l'amour de ce Fils de Dieu. Sois honoré, sois glorifié, nous te prions. Amen.